Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié dans la collection Mondes Anciens, la Grèce classique d'Hérodote à Aristote, 510-336 avant notre ère, est un ouvrage collectif dirigé par Catherine Grandjean, auquel contribuent Gerbert Sylvestre Bouissou, Véronique Chankowski, Anne Jacquemin et William Pilot. Il couvre les 1 et quivres siècles avant notre ère, depuis l'installation progressive de la démocratie athénienne jusqu'à l'avènement d'Alexandre en 336. Son objet n'est pas de proposer un récit limité à Athènes, Sparte et aux Grandes Guerres, mais de restituer la diversité politique, sociale, économique, religieuse et culturelle du monde grec. Les auteurs mettent en relation les créations durables de cette période, historiographie, philosophie, théâtre, art, avec les institutions et les pratiques civiques qui les ont rendues possibles, appuyées sur les textes, l'archéologie, les inscriptions, les monnaies. Une iconographie abondante et une cartographie originale. Le livre entend renouveler une image souvent trop étroite de la Grèce classique, envisagée comme un espace méditerranéen connecté plutôt qu'un héritage exclusivement athénien. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la démocratie athénienne, étudiée comme pratique civique et objet de débats contemporains, l'un des fils directeurs de l'ouvrage est l'importance de la démocratie. Régime associé à Athènes, mais dont l'analyse ne se réduit pas à une célébration des origines. La période classique voit les citoyens intervenir directement dans les affaires de la cité, tandis que des procédures, telles que le vote et le tirage au sort, organisent. Selon des modalités propres au monde antique, la répartition de certaines responsabilités publiques. Le livre replace ces institutions dans leur cadre civique, elles sont liées aux assemblées, aux magistratures, aux formes de délibération et à la participation des citoyens à la vie collective. Cette perspective conduit aussi à considérer les frontières du modèle. La citoyenneté ne recouvre pas l'ensemble des habitants, les étrangers, les femmes et les personnes non libres n'occupent pas la même position politique que les citoyens masculins. L'intérêt de cette mise en contexte est de rendre les comparaisons modernes plus rigoureuses. Les interrogations actuelles sur la représentation, la sélection des responsables, l'égalité civique, les réseaux d'associations ou l'inclusion ne trouvent pas des solutions immédiatement transposables dans l'Antiquité. Elles y rencontrent plutôt un précédent historique complexe, en associant institutions, débats et limites sociales. L'ouvrage montre pourquoi l'expérience grecque demeure une référence intellectuelle sans pouvoir être réduite à un modèle simple. Deuxièmement, dépasser l'opposition réductrice entre Athènes démocratique et Sparte guerrière. L'ouvrage se distingue par son refus de faire de l'antagonisme entre Athènes et Sparte l'unique principe d'explication des CV et quivres siècles. Cette opposition a longtemps structuré les récits scolaires et politiques de la Grèce ancienne, d'un côté une Athènes souvent présentée comme commerçante, culturelle et démocratique, de l'autre une Sparte définie presque exclusivement par la discipline militaire. Sans nier le poids majeur de ces deux cités ni les conflits qui les ont opposés, les auteurs élargissent l'échelle d'observation. La Grèce classique apparaît alors comme un ensemble de cités, de régions et d'implantations maritimes aux institutions, économies et relations extérieures variées. Les guerres médiques, la guerre du Péloponnèse et les rivalités entre puissances restent indispensables pour comprendre les recompositions politiques. Elles ne suffisent toutefois pas à résumer l'histoire de deux siècles. L'approche restitue également les rythmes moins spectaculaires de la vie grecque, circulation des hommes et des biens, pratiques religieuses, production monétaire, affirmation d'identité civique et évolution des équilibres régionaux. Cette décentration est essentielle sur le plan historique. Elle évite de prendre les sources athéniennes ou les grands épisodes militaires pour la totalité du réel et permet de comprendre que la créativité de l'époque classique résulte d'interactions multiples, parfois concurrentielles, entre de nombreux territoires. Troisièmement, les échanges méditerranéens comme moteur des transferts économiques, religieux et artistiques, la Grèce étudiée dans ce volume ne se confond pas avec la péninsule balkanique. Les auteurs insistent sur les liens entretenus par les Grecs avec les autres sociétés du bassin méditerranéen et de la mer Noire, notamment dans des zones telles que la Sicile, Marseille, le delta du Danube, la Syrie ou la Crimée. Ce choix géographique modifie l'interprétation de la période. Les Grecs ne forment pas un monde isolé opposé de façon uniforme à des barbares, mais participent à des réseaux d'échanges, de voisinage, de conflits et d'influences réciproques. Les affrontements avec l'Empire perse achéménide ou entre Syracuse et Carthage conservent leur importance, mais ils sont replacés parmi des relations plus larges. Les transferts concernent les biens et les monnaies, mais aussi les institutions, les croyances, les formes artistiques et les savoir-faire. Cette attention aux circulations évite deux simplifications: imaginer une civilisation grecque purement autonome ou ramener les contacts extérieurs à la seule domination militaire. L'archéologie, les inscriptions et la numismatique prennent ici une valeur particulière. car elles documentent des régions ou des groupes moins visibles dans les grands textes littéraires, en faisant de la Méditerranée un espace relationnel. L'ouvrage propose une histoire de la Grèce classique attentive aux connexions concrètes qui ont contribué à sa diversité et à son rayonnement. Quatrièmement, la production culturelle de l'âge classique reliée au cadre politique de la cité. Le titre situe délibérément l'ouvrage entre Hérodote et Aristote. Il encadre une période qui a vu s'élaborer des œuvres devenues fondatrices pour l'histoire, la philosophie, le théâtre et les arts. Hérodote et Thucydide contribuent à donner une forme durable à l'enquête historique. Platon et Aristote structurent des questions philosophiques dont la postérité dépasse largement l'Antiquité. Sophocle et Aristophane illustrent la variété du théâtre grec. Le livre ne traite pas ces noms comme une simple galerie de génies isolés. Il les replace dans le dynamisme des cités, et particulièrement dans l'environnement athénien ou institutions civiques, fêtes religieuses. Concours et espaces de discussion créent des conditions favorables à la production et à la diffusion des œuvres. Le rapport entre vie politique et création n'implique pas que les œuvres soient de simples reflets de la démocratie. Il signifie plutôt qu'elles participent au débat d'une communauté civique, guerre, pouvoir, justice, éducation, place des dieux, conflits familiaux ou limites de la décision collective. Cette contextualisation protège contre une lecture purement patrimoniale de la culture classique. Elle rappelle que les textes et les monuments admirés aujourd'hui furent produits dans des sociétés traversées par les rivalités, les guerres et les inégalités. Leur influence durable tient autant à leur puissance formelle qu'aux problèmes politiques et humains qu'ils ont formulés. En dernier lieu, une histoire renouvelée par le croisement des textes, de l'archéologie, des inscriptions et des monnaies. La démarche du volume repose sur une pluralité de sources qui correspond à la pluralité du monde qu'il décrit. Les textes d'Hérodote, de Thucydide, des philosophes ou des auteurs dramatiques restent irremplaçables. Mais ils sont nécessairement situés, ils reflètent des genres, des intentions et des milieux précis. Les confronter aux découvertes archéologiques, aux inscriptions et aux monnaies permet d'élargir l'enquête. Les inscriptions peuvent éclairer les décisions publiques, les dédicaces, les pratiques religieuses ou les relations entre cités. Les monnaies renseignent sur les autorités émettrices, les circulations et les représentations civiques. L'archéologie donne accès aux espaces, aux objets et aux territoires insuffisamment documentés par les récits traditionnels. Le livre met ainsi à profit des matériaux qui ont contribué à rendre visibles des régions longtemps marginalisées par une histoire centrée sur les grandes puissances. L'iconographie et la cartographie ne sont pas seulement des compléments esthétiques, elles aident le lecteur à saisir la dispersion géographique des communautés grecques, les distances maritimes et les cadres matériels de l'action politique ou économique. Cette méthode explique le caractère synthétique mais non simplificateur de l'ouvrage. Elle offre une porte d'entrée fiable dans les renouvellements de l'histoire ancienne, en montrant comment les preuves disponibles modifient progressivement les questions posées au passé. En conclusion, la Grèce classique d'Hérodote à Aristote s'adresse d'abord au lecteur désireux de disposer d'une synthèse solide sur les inéquifrem siècles avant notre ère étudiant-enseignant. Amateurs d'antiquité et lecteurs intéressés par l'histoire de la démocratie y trouveront des repères substantiels. Il conviendra aussi à ceux qui connaissent déjà les grands noms et les épisodes canoniques, mais souhaitent dépasser l'image convenue d'une confrontation permanente entre Athènes et Sparte. Son bénéfice intellectuel principal est d'apprendre à penser la Grèce classique à plusieurs échelles, celle de la cité et de ses institutions, celle des rivalités militaires, celle des pratiques culturelles, mais aussi celle des circulations méditerranéennes et pontiques. Par rapport à de nombreuses introductions centrées sur les batailles, les grands hommes ou le seul miracle grec, ce volume se distingue par son caractère collectif et par la complémentarité des compétences mobilisées histoire politique, économique, religieuse, numismatique, rapport aux autres peuples et aux milieux. Cette pluralité soutient une relecture documentée, attentive aux apports de l'archéologie, des inscriptions et des monnaies. L'iconographie et la cartographie renforcent en outre la lisibilité d'un espace grec étendu et fragmenté. Le livre ne propose donc pas une leçon civique anachronique ni une simple histoire culturelle, il donne les instruments nécessaires pour comprendre simultanément les réalisations. Admirer de l'âge classique, les conditions sociales qui les encadrent et les limites de ces modèles politiques. C'est cette articulation entre héritage, contexte et renouvellement historiographique qui fait sa valeur. Si vous souhaitez soutenir Gerbert Sylvestre Bouissou, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.